Notre espérance est en Dieu. Que nous soyons jeunes ou vieux ou entre les deux, que nous soyons parents, enfants, grands-parents, célibataires, pauvres ou riches, quelles que soient nos croyances et nos doutes, notre religion ou notre philosophie, que chacun et chacune d'entre nous reçoive maintenant de Dieu la grâce, la miséricorde et la paix. Grand merci à vous d'être là. Vous êtes ici une joie pour les autres. Ainsi, nous nous ouvrons mieux à quelque chose d'essentiel qu'on peut appeler la parole de Dieu, quelque chose qui nous rend plus vivants, qui nous ressuscite, qui nous envoie en avant, qui nous donne un souffle. Alors ensemble, nous allons commencer par remercier Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Donc c'est un petit livret jaune marqué après la salutation que je viens de vous faire. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Nous nous levons pour accueillir, pour célébrer ce Dieu qui nous rassemble. Nous poursuivons dans la louange avec Solène qui va nous lire un psaume.
Le roi David chanta ainsi la louange à Dieu. Éternel, ton amour est plus élevé que les cieux et ta fidélité est plus haute que les nuages. Éternel, tu sauves l'être humain et tout ce qui vit. Que ton amour est précieux, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les humains. Ils savourent les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi, la source de vie. Par la lumière, nous voyons la lumière.
Merci beaucoup, Solène. Et ensemble, eh bien, nous chantons ce psaume 36 que tu viens de nous lire. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Les trois strophes donc du psaume 36. Vous pouvez prendre place. Et puis après avoir ainsi accueilli la présence de Dieu, donc c'est Toscane qui va nous dire qu'est-ce que Jésus-Christ nous propose de vivre.
Voici comment Jésus-Christ a résumé l'essentiel de la religion de la morale dans cette parole. Écoute le Seigneur Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, aime-le avec intelligence. C'est ça le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que celui-là.
Merci beaucoup. Avec cette prière que va nous lire Capucine, eh bien nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide afin de progresser en direction de cet idéal infini de l'amour que nous propose le Christ.
Seigneur notre Dieu, bien souvent, nous n'avons écouté que notre désir de l'instant sans nous poser une seule question pour chercher ce qui aurait été juste et à ce que Jésus en aurait pensé. Et du coup, bien souvent, nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Bien souvent, nous avons négligé ou fait du mal à un autre. Bien souvent, nous t'avons oublié, toi, notre Dieu, qui est la source de la vie. Ô Dieu, toi qui nous aimes encore et toujours, sans diminuer, au contraire, donner de la vie à notre questionnement, donner du cœur à notre point de vue, donner de la force à notre volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Merci. Et c'est Éléonore qui va nous dire le pardon de Dieu qui est donné sur chacune et sur chacun d'entre nous.
Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblirait pas, et mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. En Christ l'Éternel, notre Dieu se penche vers nous, dit tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix de ta vie. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu.
Merci. Nous chantons notre reconnaissance et pour ça, je vous propose de vous lever. Et c'est Hortense qui va nous dire une confession de foi que j'ai reprise de celle d'un étudiant qui a demandé ici le baptême, donc le mois dernier.
Je crois en l'Esprit Saint, ce cadeau de Dieu qui nous fait vivre et grandir, qui nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Je crois en ce souffle qui m'apporte la joie et réflexion. Au quotidien, je crois une vie véritable qui résonne en moi chaque jour. Je crois en Jésus-Christ, le Seigneur, source de l'éternité, liberté. Amen.
Merci beaucoup.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Merci beaucoup donc à toi de nous avoir donc dit cette gloire, cette doxologie, on dit, c'est-à-dire pour rendre gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place, vous toutes et vous tous. Alors j'ai la joie d'accueillir donc Élian Cuvillier, qui est professeur de théologie, professeur de Nouveau Testament, faculté de théologie de Montpellier. Et puis je voudrais en ce moment donc présenter un petit peu les moniteurs et les monitrices du catéchisme de l'école biblique pour que vous, les parents, vous puissiez éventuellement les identifier, aller les rencontrer peut-être pendant le goûter au début de ces cultes, connaissiez un peu les moniteurs de vos enfants. Et puis vous, donc les paroissiens, et bien avoir de la reconnaissance pour ces hommes et ces femmes qui, en plus de leur boulot, parce qu'ils sont... Il y en a deux qui travaillent dans la santé, une dans l'humanitaire, il y a 4 professeurs de secondaire, 3 professeurs d'université, 4 étudiants en théologie et 5 pasteurs, qui donc en plus de leur boulot, font cette lourde mission de s'occuper, de faire l'éducation biblique des enfants une fois par mois, avec en plus la réunion de préparation, le temps de préparation personnelle. Donc en face à l'éveil biblique, je ne peux pas vous les montrer puisqu'ils sont justement en face avec les tout-petits. Il y a donc Regina, bien sûr, que vous connaissez, et il y a Larry Mourier. Ils sont donc 2 moniteurs, monitrices avec les petits en face de maternelle et de CP, de classe préparatoire. Et il y a avec donc des lycéens qui les aident aussi. Pour les CE1, il y a donc Ejon CO qui est donc pasteur. Elle est là, elle peut venir un peu montrer son visage. Il y a Ejon Céo et puis Nathalie. Ejon, tu peux venir. Nathalie, tu peux venir un peu nous montrer quand on te voit un peu. Et Nathalie, voilà. Qui sont donc avec les CE1. Donc les enfants, vous pouvez regarder un peu vos moniteurs, vos monitrices en fait. Voilà. Bien repérés pour les retrouver. Ensuite, il y a Larry qui est avec les CE2. Et Larry est en face, donc on ne peut pas le voir. Et il y a Célène, vous pouvez repérer Célène, elle peut venir un peu, tu sais pas, non. Donc les CE2, c'est avec Célène, et puis Larry qui est en face. Les CM1, c'est Frédéric Grabert, et puis Renaud Mels. Donc ils sont tous les deux jeunes papas, donc ils savent un peu ce que c'est que les enfants aussi. Avec les CM1, CM2, donc là c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un groupe, on appelle le groupe du milieu en fait. Donc c'est Raphaël Passerin, que vous connaissez déjà un petit peu, et puis Alexandre Dessin, qui est là, qui s'occupe donc des CM1, CM2. Avec les CM2, il y a Frédéric Harry. Alors voilà, on la reconnaît parce qu'elle fait souvent la mannequin dans l'allée centrale pour accompagner donc les retardataires. Et puis il y a Paul Daramon. Paul. Ah, il est là-bas aussi. Donc ils font équipe en ce moment pour s'occuper des CM2 et pour l'accueil des nouveaux. Alors ensuite, pour les sixièmes, alors eux, c'est les CM2. Voilà. Alors pour les sixièmes, ça sera Regina, déjà citée, qui est en face, et puis il y a Mireille Viora, qui a dû aider sa copine en face, je pense, à l'éveil biblique aussi, donc étudiante en théologie, Mireille. Pour les cinquièmes, ça sera Christina Mikkelsen, donc qui est pasteur et qui est en doctorat de théologie ou philosophie, les deux, non, théologie, Nouveau Testament même. Voilà, donc qui soutient son doctorat cette année, donc on a beaucoup de chance d'avoir trouvé une pasteur pour nous aider en plus, et donc elle sera avec Catherine Dion, qui est à côté, qu'on a recrutée, qui est voilà, aussi nouvelle pour s'occuper donc des sixièmes avec le programme de Bible en fait. C'est-à-dire que c'est une approche biblique plus systématique. Bible, c'est Regina et Mireille. Eux, c'est l'histoire du christianisme, pardon. Donc chaque séance, un siècle. Donc aujourd'hui, les deux premiers siècles. Ensuite, les quatrièmes, c'est Crystal Vanel. Crystal Vanel, qui est au fond, étudiant en théologie, et puis qui est aussi docteur en sociologie des religions. Bon, ça, je ne sais pas si ça aide tellement, mais pour une année d'éthique chrétienne, voilà, avec Benjamin Morel. Benjamin Morel, alors lui aussi, il soutient son doctorat dans deux mois, donc on est très reconnaissant qu'il prenne du temps pour s'occuper des jeunes, alors qu'il a 600 pages à relire, à corriger. Voilà. Et puis sinon, donc eux, ils s'occupent de l'éthique chrétienne avec les jeunes qui sont en quatrième année, en quatrième au collège, en troisième année de catéchisme. Et finalement, Souyon Pernaud, voilà, qui est pasteur aussi, et puis moi-même, on va prendre le dernier groupe de catéchisme, donc ceux qui sont en classe en troisième, et qui sont en dernière année de catéchisme, en particulier pour préparer la profession de foi pour ceux qui le désirent en fin d'année. Et puis, je voudrais présenter Aurélien Péter, qui se cache derrière sa barbe, qui est aussi dans l'accueil à la sortie, qui est organiste et spécialiste du foot avec Raphaël, donc c'est très pratique pour la pause. Et puis, il nous accompagne en face aussi pour la deuxième partie de culte, que nous allons pouvoir faire avec les petits. Tout à l'heure, on va aller traverser en face pour la deuxième partie de culte. Donc merci beaucoup à vous tous, les jeunes, les moniteurs, monitrices et les parents, pour ce travail d'équipe, pour que nos jeunes puissent avoir une vraie liberté de choisir plus tard, une liberté donc informée, en connaissant un peu la Bible, en connaissant les rudiments de la théologie chrétienne. Donc, merci beaucoup. À toi, Elian, merci pour ce que tu vas nous proposer.
Je vous invite à écouter la lecture de l'Évangile de ce jour, qui sera le thème de la prédication de ce dimanche. Vous en trouverez le texte sur une feuille qui a dû vous être distribuée. C'est un texte très connu du chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Vous ne trouverez pas exactement la traduction dans aucune de vos Bibles, puisque j'ai fait moi-même la traduction, et donc il y a quelques petites, variantes qui sont peut-être plus littérales que dans vos traductions. Donc, Luc chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et puis voilà la parabole qui sera le thème de la prédication. Jésus dit encore, un homme avait deux fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part qui me revient d'existence. » Et il leur répartit le bien. Et peu de jours après, rassemblant tout, le plus jeune fils partit dans une contrée lointaine, et là, il dilapida tout son bien dans une vie sans espoir de salut. Mais comme il avait tout dépensé, survint une forte famine contre cette contrée, et lui commença à être dans le manque. Et s'en étant allé, il fut fortement lié à un citoyen de cette contrée. Et celui-ci l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il désirait se nourrir des betteraves que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Mais, étant entré en lui-même, il dit « Combien de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici par la famine. M'étant levé, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Fais de moi l'un de tes ouvriers. » Et s'étant levé, il alla vers son propre père. Mais, étant encore à distance de lui, son père le vit et fut ému de compassion. Et, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Son fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Vite, sortez la première robe et revêtez-la lui, et mettez-lui l'anneau à la main et les sandales aux pieds. Apportez le veau gras, sacrifiez-le et mangeons en faisant la fête. Parce que celui-ci, mon fils, était mort et il vit de nouveau. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Mais son fils aîné était dans les champs. Et en venant, il s'approcha de la maison et entendit orchestre et chœur. Ayant appelé un des jeunes serviteurs, il s'informait de ce que pouvait être cela. Et celui-ci lui dit, « Ton frère est arrivé, et ton père a sacrifié le bœuf gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Mais le fils aîné, il fut en colère et ne voulait pas entrer. Mais son père sortit pour l'en prier. Mais ayant répondu, il dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, toi, que je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais lorsque ton fils que voici, qui a dévoré ton bien avec des prostituées, vient, tu sacrifies le veau gras. » Mais il lui dit, « Enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il vit, il était perdu et il a été retrouvé. » Je vous invite à chanter dans les petits cantiques bleus, le cantique 101, mais non pas les strophes 1 à 6 comme c'est indiqué, mais les strophes 1 et 6. Voilà, donc cantique 101, strophes 1 et 6 sur les petits cantiques bleus.
Oh.
Notre Dieu, à travers ces paraboles, ta parole a résonné au milieu de nous, jeunes, adolescents, adultes, personnes âgées. Tous nous sommes auditeurs de cette parole qui nous replace les uns et les autres devant la réalité de nos vies, les liens qui nous unissent les uns aux autres, liens si forts et si complexes à la fois. Veuille maintenant, grands et petits, chacun pour notre part, chacun dans le lieu où nous allons nous mettre à l'écoute de cette parole, veuille faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Et veuille par ton esprit attester à chacune et chacun qu'ici et maintenant, ta parole proclamée, c'est le Christ, compagnon de nos routes. C'est là tout ce que nous te demandons maintenant. Chers amis, sans doute n'y a-t-il pas dans les évangiles parabole plus connue que celle dite du fils prodigue. Dans la littérature, dans la peinture, chez les psychanalystes, partout dans la culture occidentale est présente cette parabole. Mais surtout peut-être, et ceci explique sans doute cela, c'est chez tous ceux qui, enfants, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, ont reçu un enseignement religieux, cette parabole résonne comme l'annonce de l'amour du Père Céleste pour son enfant perdu, de retour à la maison. Étroitement liée, on l'a vu dans l'Évangile, à celle du bon berger qui cherche sa brebis perdue. Elle témoigne donc au plus profond de nous du cœur même de la bonne nouvelle. L'amour d'un père plein de compassion pour ses enfants. Je vous propose ce matin, si vous me le permettez, d'interroger une nouvelle fois cette parabole, de nous mettre une nouvelle fois à son écoute, mais peut-être, du moins vais-je essayer, d'une manière un tout petit peu différente. L'interroger, la questionner peut-être, sur les relations un peu étranges quand même qui unissent les membres de cette famille. Un père, point de mère d'ailleurs, et deux fils. Le fils cadet donc, le plus jeune, demande donc à son père de lui donner la part qui lui revient, non pas tant d'héritage comme on le traduit souvent dans nos Bibles, pas à tort, mais disons de façon un peu plus interprétée, mais littéralement d'existence. Il demande à son père de lui donner littéralement sa part d'existence, sa part d'être. Et en retour, il reçoit un bien matériel. Dans le texte grec, l'écart de vocabulaire est notable. Et il trahit peut-être un premier malentendu fondateur de cette histoire entre ce que demande le fils et ce qu'est capable de donner le père. Dit autrement, si vous me permettez de poser cette question, et si le fils demandait tout simplement à son père de le faire exister ? C'est-à-dire de lui donner une place qui lui permettrait d'être enfin lui-même. Et si le père, au fond, n'entendait pas la demande, ne pouvait pas entendre la demande, et se contentait de lui donner des biens matériels ? Si vous avez été parent, vous avez fait cette expérience du malentendu. On vous demande quelque chose à travers des mots qui semblent dire qu'on veut quelque chose de matériel. Mais on demande autre chose. Et comme parents, nous n'arrivons pas à l'entendre. Si tel est le cas, alors on comprend mieux pourquoi, parti loin du père, le fils dilapide ce bien matériel qui ne lui permet pas d'être. Oh, certes, il a dû être content au départ, mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Peut-être d'ailleurs ne le savait-il pas, mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Il le dilapide dans une vie, littéralement, nous dit le texte, sans espoir de salut. Et il se trouve dans une situation qui le conduit, nous dit le texte, à être fortement lié, on pourrait dire collé, à quelqu'un d'autre. Le verbe utilisé renvoie au fait que ce fils n'est plus un sujet autonome, même s'il a voulu l'être. Il devient l'objet d'un autre, il est collé à l'autre. Un autre dont visiblement la parole ou le silence fait loi. Il n'ose même pas se nourrir des betteraves des porcs parce que personne ne lui en a donné l'autorisation. Faut-il qu'il soit collé à la parole de l'autre pour ne pas se servir tout seul ? Cette situation de détresse, de manque, nous dit le texte, a cependant un effet bénéfique. Elle permet un retour sur lui-même et une décision radicale. La pulsion de vie permet à ce fils de ne pas sombrer définitivement dans la mort. Il revient en lui-même. Il décide de s'accrocher à ce qui reste en lui de vivant. Il va donc retourner chez son père. Il lui dira qu'il a péché contre lui et contre le ciel. Mais où est sa faute ? Où est sa faute ? À quoi a-t-il désobéi ? À la morale des hommes qui veut qu'on ne dilapide pas le bien qui vous a été donné en héritage ? Peut-être, mais après tout, il fait ce qu'il veut. Et puis, est-ce cela l'évangile de Jésus-Christ ? Devoir demander pardon pour avoir désobéi à la morale des hommes ? En menant une vie de débauche avec des prostituées, semble dire le texte. Mais, notez-le, c'est l'opinion du frère. Ce n'est pas l'opinion de l'évangéliste. C'est l'opinion du frère qui dit au père, il a mené une vie de débauche avec des prostituées. C'est l'opinion publique. On sait bien ce qu'elle vaut, mais elle est tenace. A-t-il désobéi à la volonté de son père ? Mais encore faudrait-il savoir quelle elle est. En aucun moment, en effet, elle est exprimée dans la parabole. Et puis en quoi le ciel est-il concerné ? J'ai péché contre toi et contre le ciel. Partir loin de sa famille, serait-ce désobéir à Dieu ? C'est oublier toutes les paroles de Jésus sur la famille et la préférence donnée au royaume de Dieu sur les liens familiaux. Peut-être alors faut-il interroger d'un peu plus près le sens des mots. Il a péché, c'est-à-dire littéralement, il a manqué le but. Il a manqué la cible, selon un des sens premiers du terme grec. Qu'a-t-il donc manqué ? S'est-il trompé sur son père ? Attendait-il quelque chose de lui que celui-ci ne pouvait lui donner ? A-t-il péché contre le ciel en cherchant du côté de son Père les liens du sang, ce qu'il devait chercher ailleurs, l'altérité? C'est en tous les cas dans une autre posture qu'il souhaite se trouver désormais. Notez-le, non plus celle du Fils, mais celle de l'ouvrier. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est-à-dire plus à distance, lié à son patron par un contrat. Au moins, n'attendra-t-il de son patron que ce que celui-ci peut lui donner. Un salaire, pas autre chose. On ne demande pas à un patron de vous aimer, il vaut mieux pas. Et on n'est pas obligé de l'aimer non plus. Ça évite les problèmes. Simplement, cette fois, un moyen de subsistance. Ce dont il a besoin pour l'instant, afin de pouvoir repartir à nouveau dans la vie. Peut-être d'ailleurs cette nouvelle posture lui permettra-t-elle de trouver la juste place. J'ose ici alors une question qui pourra vous paraître déplacée. Si tel est le cas, le retour était-il la bonne solution? N'y avait-il pas risque de répétition? Les choses ont-elles changé? On va le voir. Le fils cadet est donc accueilli par le père, qui très rapidement le rétablit dans la dignité de fils. En ce sens, la longue tradition interprétative de la parabole résonne juste à nos oreilles. Ce père attend avec une confiance folle le retour de son fils. Il va même au-devant de lui, il ne lui demande rien. Mais rien pourtant ne garantit que la rencontre lèvera le malentendu entre les deux. Rien ne garantit que le fils aura réglé son problème de départ. Et quel est-il ce problème de départ ? Se libérer de la dépendance à l'autre, attendre l'existence de l'autre, vivre collé à lui. Voyez-vous, ces questions peut-être un peu osées sur le texte. Nous n'avons pas l'habitude de l'entendre comme ça. La parabole les suscite, mais elle n'y répond pas. Elle se contente de dresser le portrait d'un père pris aux entrailles, qui ne laisse même pas le fils exprimer jusqu'au bout ce qu'il a à dire. C'est dire s'il est à l'écoute, le père. Sans condition aucune. Bien sûr, le repentir n'est pas une condition à l'amour du père, mais au moins aurait-il pu l'écouter jusqu'au bout. Il n'a pas pu finir sa phrase. Il n'a pas pu dire « traite-moi comme l'un de tes ouvriers », c'est-à-dire « regarde-moi autrement ». Un fils qui n'a pas effectivement le temps de terminer son discours et qui ne dira plus un mot. Alors, question, est-il libre maintenant qu'il est revenu? Son père lui a-t-il laissé le temps de prendre la juste mesure des choses? Certes, il a compris qu'il avait manqué la cible au départ, mais aura-t-il la possibilité de ne pas se recoller maintenant à un rôle de fils qui aurait un père trop parfait, que ça en devient insupportable? Son désir trouvera-t-il un lieu d'épanouissement un peu à l'écart de celui envahissant du père qui doit jouer ici le père et la mère en même temps d'ailleurs? Une vraie mère juive, ce père de la parabole. Ce qui était impossible fût-ce à l'autre bout de la terre, se libérer des liens familiaux, sera-t-il possible maintenant dans la maison du Père? Voyez que ces questions demeurent, on est en droit de se les poser. Et puis il y a un autre fils, il y a l'aîné, la colère de l'aîné. Avouons-le, nous la comprenons. Elle est normale, saine, nécessaire, indispensable. Parce qu'elle est une prise de distance par rapport à quelque chose qui n'avait jusque-là jamais été remis en question, jamais verbalisé. Le fils aîné ne faisait pas ce que le père désirait. Il faisait ce qu'il pensait que le père désirait. Et sa colère est à la hauteur de tout ce qu'il n'a jamais osé exprimer. Le fait qu'il se sentait lié à quelque chose qui n'avait jamais été verbalisé et l'impression qu'il était le gentil et qu'il n'avait jamais rien reçu en retour. Eh bien, des deux, celui qui a le plus de chances de s'en sortir, c'est l'aîné, sans doute. Car cette colère pourrait s'avérer libératrice pour lui. Il découvre en effet un nouveau visage de son père. Il le croyait despote. Il n'osait pas s'adresser à lui, il faisait tout ce qu'il fallait. Il le découvre certes plein de tendresse, bien sûr que c'est pour l'autre, ce frère revenu que l'on n'attendait plus. Mais c'est quand même nouveau. Et ça déplace au moins au point de faire exploser la colère, de faire oser la parole. Et cette colère, expression de sa frustration, laisse l'espace pour l'expression de son propre désir. Par sa colère, l'aîné est peut-être en train d'ouvrir une brèche qui le libérera de l'emprise du désir de son père ou de l'idée qu'il se faisait du désir de son père et lui permettra peut-être d'enfin devenir lui-même. Et au final, vous l'avez remarqué, je ne vous apprends pas, la parole se termine sur un double silence. Celui du cadet, une fois accueilli, que pense-t-il de tout cela ? Après tout, je parle à sa place, ce dimanche, comme nous le faisons chaque fois que nous commentons ce texte. Est-il heureux de ce retour ? Ou déjà frustré de ne pas avoir été entendu jusqu'au bout dans ce qu'il avait à dire ? Et puis le silence de l'aîné, suite à l'invitation du père. Que va-t-il finalement décider de faire ? Va-t-il s'engouffrer dans la brèche et enfin partir lui aussi en claquant la porte ? Quant au père, il risque bien de devoir faire le deuil d'une famille idéale. Il cherche en effet à établir l'unité de la famille, que tout le monde soit ensemble. Mais cela semble impossible. Il y a toujours un fils qui manque. D'abord le petit et peut-être ensuite l'aîné. Le père comme ses fils est donc lui aussi marqué du manque. Il marche, mais il boite, pour reprendre une image de l'Ancien Testament. Alors voyez-vous, parabole du fils prodigue, comme on le dit parfois, parabole de la joie du père, comme on l'entend aussi, ou parabole du fils jaloux. Un peu des trois en somme. Parabole d'un père et de ses deux fils. En fait, la position que nous occupons au moment où nous entendons la parabole est un élément essentiel de la façon dont nous allons l'entendre et la comprendre. Selon que je me comprends dans la position d'un père ou d'un fils, et d'un fils aîné ou d'un fils cadet, peu importe si je suis effectivement un aîné ou un cadet, voire un fils unique, mais selon comment je me comprends devant la parabole, elle ne résonnera pas de la même manière. La force de cette parabole, c'est ici de parler à chacun à partir du lieu qu'il occupe à ce moment-là de son existence où il entend cette parabole. On peut avoir été ou être simultanément, selon les places que nous occupons au quotidien, dans la famille, dans l'église, au boulot, fils cadet, fils aîné ou père. La parabole nous révèle que nos réactions sont mesurables à l'aune de nos expériences personnelles. Notre besoin de nous libérer du poids de l'autre, c'est le cadet demandant quelque chose qui n'est pas entendu et recevant quelque chose qu'il ne sait pas ne pas vouloir, mais qu'il prend quand même. Ou notre expérience du manque, le cadet décidant de retourner vers son père. L'idée que nous nous faisons de notre fonction, l'attitude du père vis-à-vis de ses deux fils, ou l'expérience de l'absence, le père qui attend. Notre peur de ne pas être autant aimé que l'autre, c'est la colère de l'aîné. Et c'est pourquoi la parabole se termine de façon ouverte, sans morale. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. À chaque auditeur, en laissant résonner la parabole en lui, de comprendre qu'il n'y a pas un fils perdu et retrouvé, mais deux fils qui manquent la cible, donc perdus, dans la quête d'un amour impossible. Deux fils qu'un père aime également, mais de façon différente. Deux fils qu'il ne sait peut-être pas bien écouter, à qui il ne parle peut-être pas assez, et à qui il donne certainement autre chose que ce qu'ils attendent mais c'est ce que nous faisons tous, immanquablement. Se pose alors, en terminant, la question du fait que Dieu est représenté dans cette parabole sous la figure du Père. Cette représentation est inévitable et dans le même temps, elle est insatisfaisante. À moins de rabattre sur lui toutes les images d'un Père humain, et on sait qu'elles sont ambivalentes et parfois terribles, Dieu échappe évidemment, ultimement, à cette capture. Il est bien sûr, dans l'Évangile, le Père de la parabole, mais il est plus que cela. Il n'est pas réductible à cela. Certes, Dieu est représenté sous le visage d'un Père, mais juste avant, sous le visage d'une femme qui a perdu ses 10 pièces et d'un berger qui a perdu ses brebis, sa brebis. C'est-à-dire que Dieu n'est pas réductible à aucune image que nous en faisons. C'est là que se trouve encore une fois la force des paraboles. Elles laissent ouverte la question des représentations de Dieu. Et elles insistent sur un message central. Quoi qu'il en soit, de la place de chacun dans le système relationnel au sein duquel il évolue. Et quoi qu'il en soit des représentations du Dieu et du Père qui sont les siennes, l'essentiel est que pour l'auditeur des paraboles, il entende qu'il est l'objet d'un amour inconditionnel et libérateur. Et qu'il est l'objet d'un amour d'un Père qui l'écoute jusqu'au bout. Et que ses retrouvailles sont la cause d'une joie indicible à laquelle il est invité à participer. Certes, cette joie est prise dans les ambiguïtés de l'existence, mais elle n'en est pas moins réelle et porteuse de vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a véritablement aucune condition requise pour être, non pas l'objet, mais le sujet de cette joie. La seule responsabilité en somme, mais elle est essentielle, c'est de l'accueillir pour moi, de la laisser faire sa place en moi et d'accepter aussi qu'elle fasse sa place en l'autre. Elle existe, elle est pour chacune et chacun. Elle est à disposition. La question c'est, y a-t-il une faille en moi pour qu'elle s'y engouffre et y trouve sa place? Si tel est le cas, alors, malgré les pesanteurs du quotidien, elle fera son chemin. Et malgré les ambiguïtés de tout retour à la maison, ce retour sera quand même et malgré tout porteur de vie. Amen. Je vous invite à chanter dans le Louange et Prière au cantique 172, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 172, Célébrons l'Éternel.
Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père, tout-puissant Créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour, de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Sa dépine tout à l'enfer soit soumise. Ce bon sauveur sur la croix pour le péché, à qui la grâce pour célébrons l'Esprit celui qui sur toute la terre assemble les pécheurs et de ses dons les éclaire et les le seul corps qu'il bénit par sa force et sa lumière.
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au professeur Élian Cuvillier de cette prédication et de nous avoir accompagnés aujourd'hui et pour toute la semaine par la réflexion que nous allons avoir. Quelques dates à retenir pour les prochains jours. Jeudi 15 septembre, le chœur de l'oratoire fera sa répétition régulière à 19h30, salle Mono, et préparera le concert qu'il donnera avec la Camerata Saint-Louis samedi prochain, puisque nous serons samedi 17 et dimanche 18, les journées du patrimoine. Le temple sera bien sûr ouvert à la visite et samedi soir, samedi 17 à 18h, il y aura un concert de musique baroque, vous pourrez entendre du Bach, du Joseph Haydn et du Mozart. Ça sera un concert assez superbe avec le chœur de l'oratoire et la Camerata Saint-Louis, qui est régulièrement ici invité pour les cantates. Donc samedi 17 à 18h et dimanche 18 pour les journées du patrimoine. Alors à ce sujet, nous sommes toujours bien sûr à la recherche de quelques bénévoles pour nous aider, pour organiser les visites et accueillir les visiteurs qui sont très nombreux chaque année à visiter notre église. Et vous avez à la sortie deux dames qui sont munies d'un petit badge, Daniel et Béatrice, qui vous donneront tous les renseignements possibles pour vous inscrire si vous avez un petit peu de temps à donner au cours de ces journées. Et puis je crois que pendant le pot d'accueil qui se tiendra dans la sacristie à l'issue de ce culte, il y aura d'autres personnes avec le petit badge, notamment Laurence, qui pourra vous renseigner également sur les conditions dans lesquelles vous pouvez nous aider. Mercredi 21 septembre, à 19h30, il y aura la réunion du groupe des étudiants qui se tiendra à la maison presbytérale. Et le samedi 24, à 12h30, c'est le groupe des lycéens qui se réunira. Et c'est Marc Pernaud, qui anime ce groupe. Dimanche prochain, 18 septembre, donc, c'est le culte de rentrée pour toute la paroisse, donc tous les conseillers de l'entrée des conseils presbytéraux sera là, culte présidé bien sûr par Marc Pernaud. Et avant de terminer, je voudrais donner la parole à Elia, Maïlis et Marguerite, qui sont trois jeunes qui ont participé au Grand Kiff à Saint-Malo, qui s'est tenu au mois de juillet. Et vous avez pu lire la semaine dernière dans Réforme déjà un premier compte-rendu de ce grand rendez-vous des jeunes. Mais là, nous avons des témoins oculaires, si j'ose dire, qui ont vécu cet événement et qui vont, en quelques mots, nous le raconter.
Cet été, nous sommes toutes les trois allées au Grand Kiff, un grand rassemblement de jeunes protestants qui a eu lieu à Saint-Malo sur le thème « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Nous étions 1000, venant de toute la France et même de l'étranger. Nous avons aujourd'hui envie de partager avec vous cette expérience très enrichissante que nous avons vécue en vous disant quelques mots sur ces 5 jours de rassemblement.
Nous, les participants au Grand Kiff 2016, avons pu partager et échanger sur la foi et le témoignage. Ensemble, nous avons vécu des temps forts en chantant, en priant, en dansant et en écoutant des témoignages. Cette expérience et ces rencontres nous ont marqués et interrogés dans les moments de joie, mais aussi de douleur.
Nous étions tous ensemble au moment de l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous avons donc transformé le flash mob que nous devions faire ce soir-là en un signe de protestation et un signe de soutien à nos frères catholiques. La vidéo de ce flash mob est disponible sur la chaîne YouTube et sur le site de l'Église protestante unie. Nous, les participants au Grand Kiff 2016, nous nous sommes inspirés du geste de Luther. Comme lui, nous avons formulé environ 150 thèses pour nos églises et leur mission dans le monde aujourd'hui. Pour cela, nous avons réfléchi autour des 4 thèmes suivants. Résister, témoigner, être chrétien dans le monde et lire la Bible. Vous pouvez retrouver les thèses que nous avons écrites sur le Facebook du Grand Kiff et réécouter l'émission de France Culture qui a été faite sur ce sujet.
Avec les autres participants du Grand Kiff, nous appelons nos églises et leurs membres à inclure la parole des jeunes dans leur manière de vivre et de témoigner. Nous souhaitons dynamiser nos églises au nom de Jésus-Christ le vivant.
Pour finir, nous pouvons dire que ce Grand Kiff nous a fait grandir dans notre foi et nous a motivés pour nous investir dans cette église, enfin dans notre église. Nous avons passé 5 jours super et que nous n'oublierons pas.
Grand merci de ce souffle rafraîchissant que vous nous avez fait passer. C'est maintenant le temps de l'offrande.
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous avons entendu ta parole, une parole qui questionne et se laisse questionner, une parole qui interroge et se laisse interroger, une parole qui nous déplace les uns et les autres, qui vient nous rencontrer au plus intime de nous-mêmes et qui interroge nos places, nos fonctions, nos habitudes, nos liens. Et une parole au final qui nous déplace de nous-mêmes et nous tourne vers les autres. Les autres pour lesquels maintenant nous prions. Notre Dieu, nous te prions pour ce monde de troubles, de guerres, de haine et de désordre. Ce monde d'angoisse et de peur. Que ta parole, celle dont nous sommes modestement porteurs, vienne ouvrir à nouveau des possibles. Vienne réconcilier l'irréconciliable, aplanir les obstacles entre ceux qui ne peuvent plus se parler. Notre Dieu, nous te prions pour nos églises, pour notre paroisse, pour l'Église protestante unie et pour toutes les autres communautés chrétiennes. Qu'elles sachent être témoins d'une parole qui ouvre, accueille, interroge. Notre Dieu, nous te prions pour nous-mêmes, nos proches et nos familles. Tu sais combien les choses sont complexes. Tu sais combien chacune et chacun avons de la peine à trouver notre place. Que ta parole, là encore, vienne aérer, libérer. Notre Dieu s'est uni dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service que nous te disons cette prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait briller sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. En tout temps, en tout lieu, de toute manière, le Seigneur nous donne la paix. Amen. Bénis-nous.